Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. Bienvenue à cette émission. Seconde émission, nous avons la joie de recevoir Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. Rebienvenue à l'émission, Mgr.
C'est une grande joie, Mme Grégoire.
Merci, parce que c'est un des thèmes que j'avais bien hâte d'aborder, qui est ce dialogue juif-catholique. On se souvient que peut-être dans le passé, il y avait une vision négative de cette foi juive pour toutes sortes de raisons, peut-être parce qu'on avait mal compris ou mal interprété partiellement peut-être certains passages d'Évangile. Mais aujourd'hui, particulièrement depuis le Concile Vatican II, eh bien, il y a des relations juives et catholiques qui sont absolument importantes et vous faites partie, Mgr Lépine, d'un comité du dialogue juif et catholique. Pourquoi d'abord c'est important, ce dialogue juif-catholique?
Certainement que le passé donne de l'importance au dialogue et que le Concile Vatican II, là, a comme voulu promettre, promouvoir et promettre, espérer une promesse de renouveau du dialogue et de la rencontre pacifiée et sereine et heureuse entre les catholiques et les juifs. Alors, on sait l'histoire, on connaît l'histoire de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on sait qu'à travers l'histoire, de façon inégale, mais il y a eu, on a dit des choses sur la communauté juive qui sont déplacées, je dirais, qui ne sont pas chrétiennes. Puis avec le temps, on s'est habitué peut-être à certaines choses. Moi, je suis toujours dans la perspective, il ne s'agit pas de condamner le passé, mais il faut en tirer les leçons. Puis ce qu'on a à changer, il faut le changer. Alors, fait que, et l'Holocauste, c'était le signe, là, ça suffit. C'est comme trop, là. C'est insensé. Est-ce qu'il y avait des gens qui envisageaient le dialogue avant? Oui, mais là, ça donne... Non, il faut que ça change. Même dans la prière de l'Église, du Vendredi Saint, par exemple, c'était pas un regard bienveillant sur les Juifs. Alors, cette idée, par exemple, que les Juifs étaient responsables de la mort du Christ en croix. Moi, je suis né en 51, là. j'ai lu tout l'Ancien Testament quand j'avais 8 ans, en bande dessinée. Je l'ai lu quand même à 8 ans. Et j'aimais le peuple juif. J'ai jamais pensé de ma vie que c'était, entre guillemets, bon, tout passe par des êtres humains, là. Donc, mais jamais pensé de ma vie que c'était les Juifs qui avaient crucifié Jésus. J'ai toujours su, entre guillemets, parce que c'est ça, que c'est nos péchés. Fait que c'est pas plus l'un que l'autre, c'est nos péchés à tous qui ont porté sur la croix. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé dans l'Église à ça? C'est incompréhensible. Fait que c'est compliqué l'histoire, mais il faut que ça cesse. Fait que donc ça a été changé. Donc, de promouvoir l'égale dignité de tout être humain, ça s'applique aussi dans la relation chrétien-juive. Il y avait cette idée que l'Ancien Testament, à partir du moment où il y a l'Église, que l'Ancien Testament, c'est fini. Alors, donc, c'est pas fini. Jésus lui-même a dit, je suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, on est là pour accueillir. Pour accueillir, on est là pour apprendre. Et donc, dans la prière chrétienne, il y a des racines juives donc pour lesquelles on ne comprend rien. La prière chrétienne, si on ne va pas dans les racines juives, il y a la liturgie, il y a des racines juives. On comprend rien à la liturgie chrétienne si on ne va pas dans les racines juives. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est en arrivé là? Bon, il y a les peurs, j'imagine, il y a l'histoire, les tensions, les malentendus, tout ce qui peut arriver. Mais en même temps, fallait que ça cesse. Et le signal du Concile Vatican II a quand même été un signal fort. Et on comprend que dans les premiers temps, là, on serait à moins. Là, la communauté juive était plus dans l'expectative. Donc, on va voir où ça conduit. Mais autour de l'an 2000, ça a été possible de construire des ponts. Ailleurs, à Montréal, ça fait longtemps qu'il y a ce dialogue. Mais ça a été possible. Et je pense que c'est précieux parce que Et ce qui s'applique sur le plan humain s'applique profondément, parce qu'avant d'être des Juifs ou des catholiques, on est des êtres humains. Donc, et qu'on gagne toujours à découvrir l'autre. Il n'y a pas de moment où on ne gagne pas à découvrir l'autre. On gagne toujours à découvrir l'autre. Et on apprend de l'autre. On apprend de l'autre, alors. Oui, le Concile Vatican II, ça a été un signal fort. Ça a été un moment marquant. Et ça a porté des fruits. Marquez bien, si on veut faire toute l'histoire, la préparation à Vatican II a commencé avant, là. Il y a eu, à la fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, des efforts pour... Faut qu'on se rende compte, là. Faut qu'on se parle. Puis, donc, ça conduit à la déclaration du Concile Vatican II, mais ça a été préparé par des efforts sérieux et intentionnels après la Deuxième Guerre mondiale, là.
Monseigneur Lépine, quels sont les thèmes de ce dialogue juif-catholique auquel vous participez?
Dans les thèmes du dialogue, il y a comme deux axes. Il y a l'axe de la connaissance mutuelle. Donc, par exemple, on va prendre un thème, mettons le sacrifice. Là, on va regarder le sacrifice d'Isaac. Alors, comment dans le monde juif, entre guillemets, ou dans la Torah, comment c'est traité, comment c'est interprété par les rabbins aujourd'hui. Donc, on va regarder ça. Après, on va regarder ça du point de vue chrétien, comment ça nous parle. Et donc on fait comme des échanges sur des regards complémentaires et à la fois différents et souvent complémentaires, là, pour pas dire toujours complémentaires, sur la façon dont l'histoire biblique est perçue. Donc, je donne ici un exemple. Je pourrais donner l'exemple des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, bon, comment ça trouve une présence dans le peuple, dans la foi juive. Mais les commandements de Dieu, toujours sous le modèle « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » du Jésus. Comment c'est présent dans comment on relie comme chrétien les commandements de Dieu? Et comment on peut les appliquer comme les commandements de Dieu? Je suis en contact là, à Montréal aussi. Il y a le dialogue chrétien-juif au niveau national, mais il y a aussi le dialogue chrétien-juif au niveau à Montréal même. Et en parlant avec eux, je rencontrais des représentants, puis en parlant avec eux, parce que ça fait longtemps que je pense aux commandements de Dieu, j'ai toujours été impressionné par les commandements de Dieu, puis je voulais aller au moins une fois dans ma vie au sommet du mont Sinaï, ce que j'ai fait en janvier dernier, en janvier 2005. Alors, je suis allé en Égypte 4 jours, et pour différentes choses, j'ai pas été long, j'ai pas tout vu, là, mais je suis allé au sommet du mont Sinaï.
Vous teniez à y aller.
Ah oui, c'était tellement important pour moi. C'est tellement important. C'est un grand sujet, mais c'était tellement important, comme ça m'habitait depuis mon enfance. Puis là, finalement, je rencontre des représentants du dialogue chrétien-juif à Montréal. Puis là, je parle de ça. Puis là, c'est là qu'on me rappelle, ben écoute, c'est la Pentecôte, c'est aussi la fête des commandements de Dieu chez les Juifs. Ben là, j'ai dit, OK, ben on va fêter ça à la cathédrale. Donc, le vendredi précédent la Pentecôte, on va fêter, on va avoir une messe pour les commandements de Dieu. Ça va être à la façon catholique, mais entre guillemets, avec une tonalité catholique, mais en accueillant ce riche héritage de l'histoire juive, là.
On peut dire que c'est un fruit du dialogue juif-catholique, le
c'est
fait que vous
découvriez... C'est un fruit du dialogue et des rencontres, parce que j'ai, à un moment donné... Vous savez que dans la pédagogie, on dit toujours qu'il faut enseigner aux enfants, mais les enfants, ils écoutent pas, ils imitent. Alors, c'est la première règle de la pédagogie. Si tu crois en quelque chose, ben il faut que tu le fasses, faut pas juste que tu en parles. Alors donc, j'ai eu quelques invitations dans le monde juif, donc j'ai rencontré, puis... Ça m'a ouvert mes horizons, mais c'est à partir de leurs questions même. Ils me posaient des questions, le lien, mettons, entre la liturgie juive puis la liturgie chrétienne. Fait que c'est eux-mêmes qui m'ont amené à affronter ça. Puis, et dans la Bible, il ne faut jamais oublier que la parole la plus puissante, originelle, là, de la dignité de tout être humain, c'est dans la Bible, c'est dans la Genèse. C'est écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, ça, là. C'est un texte révolutionnaire. Dieu créa l'être humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il le créa. Il n'y a pas plus révolutionnaire que ça. On est encore en train d'essayer de le vivre, là. Tellement c'est révolutionnaire. Mais c'est un cadeau de Dieu à l'humanité, ça. C'est un cadeau de Dieu à l'humanité, d'avoir cette affirmation de la dignité de tout être humain. Et comment est-ce qu'on reçoit ce cadeau?
Donc, c'est un autre exemple de fruit de ce dialogue juif-catholique que vous avez. Vous parliez qu'il y avait deux axes, connaissance mutuelle, et est-ce que le deuxième axe, c'est vraiment de parler de la Bible, des traditions communes?
Bien, c'est-à-dire, dans le contexte actuel, on est post-Holocauste, là, donc c'est l'horreur que tu te demandes d'où ça vient, mais c'est arrivé, là, et on ne veut pas que ça se reproduise. Alors, donc, et d'autres l'ont dit, hein, faut se souvenir pour ne pas répéter. Alors, à chaque fois qu'à l'occasion de politique, c'est des problèmes réels, c'est des enjeux réels, la question n'est pas là, mais il ne faut pas penser que la discrimination ou la persécution, c'est une façon de résoudre un problème. C'est qu'on rajoute au problème. Alors, j'entends avec les tragédies au Moyen-Orient, alors quand j'entends les Juifs d'aujourd'hui me dire « Ah, là, je comprends ce que mes parents me disaient. » C'est terrible. Ils ne s'attendaient pas à vivre cette insécurité que leurs parents ont vécue avec les jeunes aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme monde? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société? Non. Ni pour personne. Ni pour eux, ni pour personne. Et donc, on ne veut pas que les gens se sentent menacés, aient peur de sortir, aient peur d'ouvrir leurs portes, se surveillent tout le temps. On est supposé être dans une démocratie, dans un pays libre. Mais il faut travailler pour ça. Il faut vraiment s'investir là-dedans. Là. Il faut surmonter ça. Surmonter, pour d'autres choses, il ne faut pas baisser sa garde. Il faut surmonter ce regard sur la dignité de tout être humain. Des problèmes, il y en a, oui. La question n'est pas là. Il ne faut pas les estimer, des problèmes de territoriaux en Terre Sainte, en Palestine, des problèmes de relations. Mais la violence n'est jamais une solution. Parce que c'est une des choses qui ressort tant du point de vue religieux en général, je dirais pas seulement du point de vue juif ou chrétien, c'est qu'on ne commet pas la violence au nom de Dieu. Et ça, c'est très important. Alors, donc, comment on accueille ça aujourd'hui, puis comment, entre guillemets, on témoigne de cette parole aujourd'hui, le mot « paix », hein, c'est un mot important dans toutes les religions, aussi dans le dialogue chrétien-juif, « shalom », très important, « pax », la paix du Christ. Alors, comment la paix est au centre de tout ce que l'on fait, de nos rencontres, puis de notre présence dans la société.
Est-ce que ce dialogue juif-catholique permet aussi à différentes communautés juives de mieux comprendre la nouveauté de l'Évangile?
Je pense que c'est plus, dans un premier temps, le fait de rencontrer des frères, de rencontrer des amis. C'est le fait de voir qu'ils peuvent, en rencontrant un chrétien, qui rencontre un frère. Et c'est important. Il faut que quand il rencontre un chrétien, il rencontre un frère. Tu sais, Marie était juive, là. Joseph était juif. Joseph, il est pas mort chrétien, là. Lui, il était juif, là. Tu sais, il est mort avant la croix puis la résurrection. Et Jésus était juif. Alors, donc... Et moi, c'est vraiment ce goût. J'ai le goût de dire aux Juifs que ce sont que je les vois comme des frères, tu sais, que je les vois comme des amis. Il y avait avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait, faut que je me trompe de pape, c'était Pie XI, avait écrit une lettre encyclique adressée à la contexte dans le contexte de la persécution des Juifs dans le régime nazi en Allemagne à l'époque. Et pour être sûr qu'ils comprennent, il l'avait écrit en allemand. Et il commençait comment? « Je suis juif ». C'est fort, ça. Hein? « Je suis juif ». C'est mes racines. C'est mes racines. Le juif est mon frère. Alors, donc, et ça, on ne peut pas oublier ça, puis c'est très fort, puis et c'est très important. Puis, et moi, j'apprécie l'amitié qui grandit tranquillement. Dans un monde incertain, jusqu'où on peut aller, mais peu à peu, peu à peu.
À question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Vous avez parlé de paix il y a quelques instants, Monseigneur Lépine, et vous êtes intervenu à différents moments clés, depuis particulièrement depuis 2017, parce qu'avec l'attentat à la mosquée de Québec, et vous avez aussi eu, à travers la messe anniversaire pour la Fondation de Montréal en mai 2017, vous avez aussi parlé de paix. Quelles sont vos convictions par rapport à la paix et pourquoi c'est important pour vous de revenir sur ce thème ou cet appel à la paix?
Il y a comme deux angles d'approche. Il y a l'angle, on peut partir de Dieu comme on peut partir de l'expérience humaine. Dans l'expérience humaine, il y a une soif de paix. Il y a une aspiration à la paix. Mais il faut y croire. Il faut y croire que c'est un peu comme Dieu, entre guillemets, on est appelé à y croire. Je dirais, l'être humain, on est appelé à y croire aussi. Et quelque part, la foi en Dieu conduit à une foi en l'être humain, à faire confiance en l'être humain. Et donc, il faut y croire que la paix est possible parce que tout être humain est créé, certainement du point de vue chrétien, créé à l'image de Dieu, mais tout être humain est habité par une soif de vrai, de vérité, de beauté, de bonté, de paix, d'unité. Et donc, il faut comme y croire et y travailler. Y travailler, quels que soient les obstacles, jamais cesser d'y croire. Puis dans la foi chrétienne, on a tout, on a pour fortifier ça. Puis je pense à la prière de saint François d'Assise qui est inépuisable. C'est assez, des fois je me dis, faudrait que je trouve une autre prière. Ça fait longtemps, on s'en sert beaucoup de celle-là, mais j'en trouve pas d'autres.
Quelle est cette prière, Monseigneur Lépine?
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de paix. C'est une prière incontournable. Si on fait les études historiques, il y a quelqu'un qui va dire, elle est attribuée à Saint-François d'Assise, mais probablement que ça a été composé par un autre, mais c'est tellement l'esprit de Saint-François d'Assise que c'est correct de dire que c'est la prière de Saint-François d'Assise. Puis à la limite, Saint-François d'Assise, à son époque, qu'est-ce qu'on disait? Bon, on disait c'est un des grands imitateurs de Jésus-Christ. Donc, à la lumière, c'est très Jésus-Christ aussi. Fait de moi un instrument de ta paix. Et je pense que quand, à travers les incertitudes de la vie, à travers les menaces à l'horizon, quand on garde un regard bienveillant sur le monde, quand quoi que ce soit qui arrive, on demeure capable de garder un regard bienveillant sur le monde, je pense que quelque part, on a vaincu, ou la grâce de Dieu a vaincu en nous, parce qu'on demeure humain. On garde en nous la capacité de voir en l'autre un être humain. Et c'est très important pour la paix. Pas oublier qu'on a la même humanité, y croire en la paix, y croire que oui, il y a les peurs, oui, il y a les menaces, oui, il y a les violences, mais travailler pour la paix, œuvrer pour la paix. Et est-ce qu'un jour, ça sera la paix totale? Le royaume de Dieu, oui, mais sur la terre, c'est quand même le royaume déjà commencé. Pas encore accompli, mais déjà commencé. Et la tâche est là. Puis la parole de paix est tellement importante. Ça m'a toujours frappé que Jésus-Christ, la première chose qu'il dit aux gens, c'est « la paix soit avec vous ». Et donc, il y a une paix du cœur que Dieu peut nous donner, qui est plus fort que toutes les incertitudes, les angoisses ou les anxiétés qui peuvent nous habiter. Donc, il faut comme implorer la paix. Il faut comme prier pour la paix. Et c'est universel. À un moment donné, j'écoutais... Je suis un amateur des animés. Les animés, c'est les dessins animés japonais.
Des dessins animés japonais. Vous êtes un amateur.
Des dessins animés japonais. J'ai commencé ça pendant les Olympiques à Sapporo. Alors, ben, je vais me rapprocher de la culture japonaise. Je me mets à écouter un film animé sur les Japonais, là. Bon, qui avait ses fragilités. C'était pas le film parfait. Mais à la fin, ça finissait par une prière pour la paix. Un film animé japonais, là. Ça finissait par une prière pour la paix. Alors, donc, dans un monde où la guerre menace, là, puis c'était un monde un peu parallèle au nôtre, c'est un mélange de science-fiction, mais finalement, à la japonaise, que j'aime beaucoup, parce que les animés japonais, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de spirituel, de technologie, d'humanité. Alors, fait que je trouve ça, disons, un peu fascinant. Là. Alors, c'est l'aspiration à la paix, mais il faut y croire. Et c'est là que Dieu nous aide. Dieu, il nous aide à y croire. Parce que quand on regarde Dieu, on se rappelle qu'il a créé toute l'humanité, qu'il est créateur de tout être humain. Donc, en regardant Dieu, ça nous rappelle que l'autre qui est autre, c'est mon frère, c'est ma sœur. Donc, on se rappelle qu'on est créé par Dieu et qu'on est fait pour la paix. Donc, c'est de travailler à la paix et c'est ça qui construit. Et c'est ça, je pense qu'en bout de ligne, dans le parcours de notre vie, on peut dire, quoi que ce soit qui s'est arrivé dans ma vie, j'ai toujours choisi de travailler pour la paix. Et je pense que ça, c'est un plus. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça, puis c'est une force.
Monseigneur Lépine, la question de la laïcité, qui est assez complexe, il nous reste quelques minutes. J'aimerais vous entendre là-dessus. La laïcité collaborative, c'est la position des évêques du Québec que vous êtes allé présenter en février dernier devant la commission. Quels sont les points importants? D'ailleurs, le titre est très beau, très frappant. Laïcité collaborative, pour une laïcité collaborative.
Oui, disons... Il y a une expression. La laïcité, ça peut être vu de différentes façons, mais si on s'arrête un instant, on peut faire un lien entre laïcité et liberté. Moi, je dirais, là, ça va peut-être être audacieux, mais je lance ça comme ça, laïcité égale liberté. Pour moi, c'est ça le projet. C'est-à-dire, c'est le projet d'avoir un État laïque qui n'est pas là pour promouvoir une religion ou servir une religion au détriment des autres, mais qui est là pour servir la diversité de croyances, la diversité de religions, et qui est là pour respecter les religions qui sont là, donc qui est là pour servir la société dans sa pluralité de convictions, dans sa différenciation de convictions. Donc, un État laïque, c'est l'État serviteur de la société. C'est l'État serviteur de la différenciation de croyances, de convictions athées, agnostiques, religieux ou autres. Et donc, c'est dans ce sens-là que le mot collaboratif, c'est comme on est en dialogue. Distinguer, c'est important. L'État, c'est l'État, avec sa vocation, sa noblesse, sa grandeur. La société, c'est la société. L'État, c'est pas la société, il est au service de la société. L'Église, c'est l'Église, qui est dans une société et qui rencontre d'autres croyances, d'autres êtres humains. Et donc, de mettre tout ça ensemble, l'État, la société, l'Église, dans une dynamique de collaboration. Collaboration pour le bien commun, collaboration pour la justice, collaboration pour la paix, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, puis pour servir la paix, pour servir le bien, pour servir la justice. Et c'est un beau projet, une laïcité collaborative, parce que c'est dire, on s'ignore pas les uns les autres, on se parle. Puis là où on a des choses à faire en commun, on le fait. Puis, et si on veut, alors ça, c'est notre modèle de laïcité, si on veut. Alors, parce qu'autrement, c'est comme tout ou rien. Si on n'est pas dans la laïcité collaborative, c'est une laïcité qui se rétrécit. Puis là, on ne sait plus quoi faire. La religion devient ce qui dérange, ce qu'on n'est plus capable. On ne sait plus quoi faire avec. Il y en a-tu trop, il y en a-tu pas assez. Fait qu'on devient dans le calcul, on devient de la mesure des libertés, dans le contrôle des libertés, dans les. Fait que là, ça conduit où? Non, l'État là pour servir la société dans sa pluralité. Il n'y a pas de conviction, quelles qu'elles soient, qui sont faites pour être purement privées. Parce que l'être humain, c'est un être social. Donc, tout est en même temps personnel et social. Donc, tu ne peux pas être personnel sans être social, puis tu n'es pas social sans être personnel. Donc, ça prend une liberté non seulement de conviction, mais aussi d'expression. Et là, c'est l'État qui sert la liberté de conviction. En même temps que la liberté d'expression, je pense qu'à ce moment-là, elle est au service de la société tout entière. Et collaboration, parce que l'enjeu de sécurité, l'enjeu de paix, c'est très important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté d'expression, par exemple, ne peut pas devenir une menace à l'autre. Donc, ce n'est pas la liberté jusqu'au boutiste, la liberté de n'importe quoi. Non, c'est une liberté responsable au service du bien commun et de la paix sociale. Et donc, c'est des enjeux qui reviennent, mais on peut l'envisager. Donc, il y a toujours comme des points de repère à tenir, et certainement que le point de repère du bien commun, de la paix sociale et de la sécurité, c'est très important. Mais une laïcité ouverte et collaborative est possible dans une perspective, justement, de poursuite commune du bien commun.
Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, un grand merci d'avoir parlé avec nous de ce dialogue juif-catholique, d'avoir parlé de la paix et de nous avoir aidé à comprendre la laïcité collaborative.
Merci beaucoup, c'est un privilège.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci de votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.